Bonsoir à toutes et à tous. La France suspend le vaccin AstraZeneca. C'est un retournement complet de situation. Alors que Jean Castex faisait encore part hier soir de toute sa confiance dans ce vaccin anglo-suédois, mais depuis, les Pays-Bas, l'Allemagne cet après-midi ou encore l'Italie ont suspendu leur campagne de vaccination, le temps d'enquêter sur ces cas de thrombose. Emmanuel Macron suspend donc la campagne dans l'attente de l'avis de l'autorité européenne du médicament qui devrait être rendu demain après-midi. Que penser de cette suspension? Faut-il s'inquiéter? C'est en tous les cas une bien mauvaise nouvelle pour la confiance dans ce vaccin AstraZeneca et pour la campagne de vaccination au moment même où l'épidémie de coronavirus flambe en Île-de-France avec des services de réanimation saturés. L'Île-de-France, un territoire clairement en sursis, de l'aveu même de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « France, Allemagne, Italie, AstraZeneca suspendu ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match, Christine Rouzioux, professeure émérite de virologie à la faculté de médecine Necker, membre des académies de médecine et de pharmacie. En visioconférence, on retrouve Dr Agnès Ricaribon, vous êtes chef du service du SAMU 95, membre de la Société française de médecine d'urgence. Et enfin, le professeur Bertrand Guidet, chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Professeur Rouzioux, on commence avec vous. Comment analyser, quelle a été votre réaction quand vous avez entendu Emmanuel Macron annoncer cet après-midi la suspension de la campagne de vaccination AstraZeneca?
D'abord, comme tout le monde, assez surprise, d'autant qu'elle venait à la suite de la suspension par l'Allemagne. Maintenant, nous n'avons pas encore toutes les informations. Pour le moment, tous les cas qui avaient été signalés étaient très inférieurs aux cas attendus en population générale, donc une fréquence faible avec un bénéfice-risque qui était en balance du bénéfice. Maintenant,
c'est quoi la thrombose exactement? Puisqu'il s'agit de cas de thrombose qui paraît très suspect, même s'il ne représente, vous l'avez dit, que 30 cas sur 5 millions, ce qui fait 0,0006%.
En fait, ce risque de thrombose existe en population générale avec un risque relativement beaucoup plus élevé. Donc, il est difficile de dire si ce qui est observé est lié au vaccin ou si c'est complètement indépendant. Ça peut survenir chez beaucoup de gens, même indépendamment de la vaccination. Donc, ce qui est nécessaire maintenant de savoir, et je pense que c'est ça que l'Agence du médicament doit collecter à droite et à gauche, c'est y a-t-il un lien de causalité qui fait que il est nécessaire d'interrompre ou pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer ou qu'est-ce qui peut faire que nous n'avons eu aucune de ces informations-là, ni des Écossais, ni des Anglais, ni au cours de l'essai thérapeutique et de la phase 3.
Ce n'est pas rien parce qu'il y a 11 millions d'Anglais qui ont été vaccinés à l'AstraZeneca.
Ce qui n'est pas rien, voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que fabriquer un vaccin, ça veut dire plusieurs lots. Alors est-ce qu'il y a une différence de lots? C'est pas si simple de produire des adénovirus et des cultures cellulaires. Ça peut être de façon un peu variable d'un lot à l'autre. Et donc, la réaction des Italiens disant « on arrête sur ce lot, on arrête », en incriminant plutôt un lot qu'un autre, mais c'est vrai qu'il nous faut, il faut que l'Agence du médicament ait beaucoup plus d'informations sur quels sont les différents lots qui ont été distribués dans les différents pays quels ont été les lots qui ont été utilisés en Écosse et en Angleterre et où ont été fabriqués les lots qui sont distribués actuellement.
Professeur Bertrand Guidet, quelle est votre analyse? Est-ce que c'est le principe de précaution peut-être qui serait un peu trop poussé? Ou est-ce que non, on a raison, en termes de vaccination, de prendre toutes les précautions dès lors qu'il y a quelque chose qui s'allume?
Plusieurs messages. Premier message, la pharmacovigilance fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a un suivi des personnes qui ont été vaccinées, et s'il y a des effets secondaires, on les déclare et on les analyse. Donc ça, je pense que c'est un point très positif. Le deuxième élément, c'est que s'il y a une suspicion, on doit absolument préserver la santé des personnes vaccinées. Et donc, je trouve que le principe de précaution doit s'appliquer, en l'occurrence, et sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des analyses de fait de ce qu'on appelle l'imputabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des arguments forts qui trouvent un lien entre la vaccination d'une part et la survenue d'un certain nombre d'effets secondaires, dont ces complications thromboemboliques. Et je pense que le bon terme utilisé, c'est moratoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut continuer à produire le vaccin, il faut continuer à commander, il faut les avoir dans nos frigos et pouvoir reprendre une campagne de vaccination si effectivement ces doutes étaient levés par l'Agence européenne du médicament.
Bruno Jeudy, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a été pris de court par, notamment par cette annonce de l'Allemagne qui cet après-midi a décidé de suspendre AstraZeneca. Et c'est vrai que dans la foulée, on a vu un Emmanuel Macron prendre la parole, ce qui n'était pas forcément prévu, pour lui aussi annoncer la suspension de AstraZeneca.
J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, cette prise de parole sur ce sujet-là, cet après-midi, à Montauban, dans le cadre du sommet franco-espagnol, n'était pas prévue. On a un indice, d'ailleurs, qui le laisse clairement montrer. C'est ce que dit hier soir Jean Castex, que Jean Castex, hier soir, s'engage encore sur la sécurité autour de ce vaccin AstraZeneca. Mais c'est vrai que la décision de l'Allemagne de le suspendre aujourd'hui, on sait qu'il y a une coordination entre la France et l'Allemagne. Le gouvernement fédéral décide de prendre cette décision. Très difficile pour la France de ne pas s'aligner sur nos voisins, d'autant plus que l'Allemagne n'est pas le premier pays à prendre cette décision. En fin de semaine dernière, plusieurs États membres de l'Union européenne avaient pris des décisions similaires. Et le professeur rappelait que l'Italie avait retiré un lot. Donc, de toute façon.
Et là, l'Italie a suspendu, comme la France également, cet après-midi, sa campagne.
Donc, il y a œuvre à la fois. Il y a principe de précaution et œuvre de transparence, puisque là, le président vient prendre la parole et dit donne le délai décision de l'avis de la Haute Autorité européenne du médicament prévue demain après-midi. C'est vrai que les téléspectateurs qui nous regardent doivent se dire, décidément, avec ce AstraZeneca, il est vraiment mal né. Trop d'incertitudes depuis le début, une communication aussi défaillante. Et puis, à vous ajouter à ça, les difficultés d'approvisionnement autour de cette marque de vaccin. Donc là, il y a vraiment une difficulté. Ça tombe mal parce qu'en plus, c'était le premier jour de vaccination dans les officines des pharmaciens. Cette semaine, c'est une désorganisation quand même de la campagne vaccinale qui peut se
Après
produire.
Après Rosiou, il y avait des pharmaciens qui étaient en train de vacciner et regardaient à la télévision Emmanuel Macron en train de dire « on arrête tout ». Donc on imagine quand même, ça doit être très... Désarçonnant dans le point pharmacien.
Oui, ça doit être terriblement gênant, mais en même temps, on voit bien que ces phénomènes sont extrêmement peu fréquents. Donc voilà, il faut qu'ils finissent leur vaccination et puis aujourd'hui et puis on attend demain. Si c'est pour retarder d'une semaine ou deux, c'est pas dramatique.
Le fait l'Agence européenne des médicaments, on me le dit à l'instant, fera une communication extraordinaire, une réunion extraordinaire sur ce vaccin jeudi.
Oui, je pense qu'ils vont avoir des tas d'informations que nous n'avons pas.
Pardonnez-moi, je vous avais coupé.
Non, à court terme, de toute façon, c'est une désorganisation de la campagne vaccinale.
Ouais,
il y avait quand même 150 000 doses cette semaine d'AstraZeneca qui devait être, qui arrivait la semaine prochaine autant. Donc, on avait une montée en puissance dans la deuxième quinzaine de mars, alors que cette même campagne vaccinale, on sait qu'elle a mis du temps à se mettre en place, qu'elle patinait. Et là, c'est encore un coup dur cette opération vaccinale de grande ampleur. D'autant plus qu'il faut rappeler qu'il y avait aussi les populations vulnérables qui commençaient à être élargies à d'autres populations. Est-ce que demain, il va falloir se concentrer uniquement sur les populations vulnérables compte tenu du fait qu'on a un vaccin de moins et que les autres ne doivent arriver sur le marché que d'ici un mois ?
Docteur Agnès Ricaribon, il y a eu en France des centaines de milliers de Français qui ont été vaccinés, qui ont reçu une dose, voire certains deux, à ce vaccin AstraZeneca. Je sais que vous-même, vous participez à des campagnes de vaccination éphémères à Sannois, dans le Val d'Oise. Vous avez sûrement vu ces gens un peu inquiets, d'ailleurs, face à l'AstraZeneca, dont on disait qu'il n'était pas efficace. Vous leur avez sûrement dit, mais s'il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous leur diriez ce soir ? Parce qu'ils doivent être inquiets, quand même, tous ces centaines de milliers de Français qui ont été injectés, à qui on a injecté de l'AstraZeneca.
Nous, on a plutôt vu des patients qui étaient contents d'être vaccinés et d'avoir un vaccin que des patients qui ont peur du vaccin. Il est absolument normal et ça montre que le système de pharmacovigilance marche, qu'à partir du moment où il y a un événement indésirable, qu'on étudie avec beaucoup d'attention la question. Mais encore une fois, là, pour l'instant, le lien de causalité, il n'est pas établi. Donc, ce principe de précaution, il ne faut pas que ce principe de précaution précaution aille à l'encontre de l'intérêt patient et qu'on ait au final plus de patients touchés et une mortalité plus élevée parce qu'on aura retardé de façon indue la vaccination. Donc il est normal qu'il y ait un principe de précaution, mais ça ne doit pas durer trop longtemps et qu'il y ait une communication qui soit vraiment transparente sur les décisions qui sont prises, parce que si c'est le phénomène du hasard et non pas un lien de causalité, ça ne doit pas remettre en question la confiance des patients dans ce vaccin, parce qu'à l'heure actuelle, la seule solution vraiment pour protéger la population de cette épidémie, c'est la vaccination, et une vaccination de masse et rapide, parce qu'on a vraiment un système de santé qui est sous tension et on a besoin d'accélérer cette vaccination. Et donc, il faut que les décisions soient les analyses soient faites rapidement et que les décisions soient prises rapidement en totale transparence pour qu'il y ait une vraie confiance rétablie sur ce vaccin. Il y a quand même des milliers de personnes qui ont été vaccinées en Angleterre, en Écosse et ailleurs, sans qu'il y ait de difficultés particulières.
11 millions hein, de Britanniques. Bruno Jeudy, sur ce principe de précaution, on pensait que c'était une spécificité française, qu'il n'y avait que nous qui portions aussi haut ce principe de précaution. On a l'impression que c'est largement partagé, en tous les cas chez nos amis danois, hollandais ou allemands, qui nous ont précédés dans la mise en étendard de ce principe de précaution.
Vous avez raison de rappeler qu'ils nous ont précédés. Oui, le principe de précaution, en plus, nous, il est inscrit dans la Constitution. Non, je crois qu'en l'occurrence, depuis le début de la crise sanitaire, tous les pays sont extrêmement vigilants sur toutes ces questions sanitaires. De toute façon, l'opinion suit ça en direct. Elle a besoin d'être rassurée. Et c'est vrai que l'AstraZeneca, depuis le début, est un vaccin qui suscite beaucoup d'interrogations. Les Français ont pris leur décision après les Allemands. C'était très difficile de faire autrement.
Les Belges l'ont fait. La Belgique a dit on continue, même si tout le monde autour de nous arrête.
Très difficile quand même. Et puis c'est aussi, j'allais dire, un principe, pour le coup, de solidarité européenne. Là, maintenant, il y a quand même beaucoup de pays. Et donc, bon, logiquement, c'est maintenant la haute autorité du médicament européen de prendre sa décision.
C'est donc l'annonce choc de cet après-midi, hein, la suspension de la campagne de vaccination AstraZeneca. Il est vrai que la France pouvait difficilement faire cavalier seul, alors que l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi l'Italie, le Danemark, l'Islande, l'Irlande, la Norvège, la Bulgarie, tous ces pays ont suspendu la vaccination AstraZeneca suite à des cas de thrombose apparus chez des patients vaccinés. Sujet de Mathieu Lignot et Walid Berissoul.
Le doute persiste et même s'amplifie sur le vaccin d'AstraZeneca. La liste des pays européens à l'avoir suspendu s'est allongée. L'Allemagne et l'Italie cet après-midi. Et pour la France, c'est le président lui-même qui a annoncé avoir pris la même décision.
La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet. Et donc là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne. Donc nous suspendons jusqu'à demain après-midi.
La défiance en Europe. Alors que ce matin, au Royaume-Uni, l'un des pères de ce vaccin conçu à Oxford a essayé de dissiper les inquiétudes sur les effets secondaires.
Il y a des preuves très rassurantes qu'il n'y a pas d'augmentation du phénomène de caillot sanguin ici au Royaume-Uni.
Un coup dur pour AstraZeneca. Alors que depuis ce matin, les pharmacies avaient enfin commencé à vacciner, au compte-gouttes, il faut bien le dire.
Donc voilà le vaccin, AstraZeneca, le Graal.
Pourquoi le Graal ?
Parce qu'il est rare. Fin de semaine dernière, on a reçu une dose. Cette semaine, on doit recevoir deux doses. Et a priori, au moment où je vous parle, je ne peux pas commander des doses supplémentaires pour la semaine prochaine.
Visibilité réduite également pour les médecins, appelés eux aussi à devoir patienter à travers une note de la Direction générale de la Santé publiée hier.
Le volume des livraisons de vaccins par le laboratoire AstraZeneca contraint très fortement les approvisionnements. Au maximum, 30 000 médecins pourront commander un flacon.
Et la situation n'est pas près de s'améliorer.
La semaine prochaine, nous aurons peu de doses. La semaine suivante, nous aurons peu de doses. Et il est à craindre que la semaine suivante, nous ayons peu de doses également.
Pourtant, le gouvernement assure que son objectif des 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose d'ici fin juin sera tenu. Mais pour l'instant, l'intendance a du mal à suivre. 9 millions de doses du vaccin Pfizer étaient attendues en mars, 5,6 millions ont été livrées. Seulement 600 000 doses du Moderna au lieu d'1,5 million. Quant à AstraZeneca, elle n'a livré qu'1,6 million de doses à la France au lieu des 6 millions commandées et payées. Et le groupe pharmaceutique vient d'annoncer ce week-end encore de nouveaux retards de livraison. De quoi éprouver un peu plus la patience du monsieur vaccin de l'Union européenne.
Une entreprise, ça rendait compte aussi. Le directeur général, mais aussi le conseil d'administration. Lorsqu'on signe un contrat qui, évidemment, dépasse, vous l'avez bien compris, de beaucoup, un cadre purement commercial, compte tenu de l'importance, si jamais il y a, me semble-t-il, des incohérences, à moi de les dénoncer, au conseil d'administration de prendre, évidemment, les mesures qui s'imposent, ce que j'ai du mal, évidemment, à comprendre. Mais on va attendre les explications, parce que les explications que j'ai eues ne me satisfont pas, moi qui suis sur le terrain quasiment tous les jours. Ce que je n'accepte pas, c'est les retards.
D'autant qu'avec AstraZeneca, ça n'est pas la pénurie pour tout le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, selon le New York Times, 30 millions de doses sont bloquées dans cet entrepôt. Un vaccin pas encore homologué par les autorités américaines, qui refusent de les exporter vers l'Europe. Pour Joe Biden, lui aussi, c'est America first.
Si nous avons du surplus, nous allons le partager avec le reste du monde. Mais nous allons d'abord nous assurer que les Américains sont vaccinés en premier. Et ensuite, nous aiderons les autres. Merci.
Le nouveau président des États-Unis avait promis de faire vacciner plus de 100 millions d'Américains d'ici à la fin avril. Cet objectif vient d'être dépassé ce week-end.
Alors, question téléspectateur. Alors, AstraZeneca, danger ou pas danger? Question de Gilbert dans l'Hérault, professeur Rousiou.
Oh, on ne sait pas, mais moi je pense qu'il n'y a pas danger vraiment à un niveau très 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 élevé. Tout médicament donne des effets secondaires, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'encore une fois, d'un lot à l'autre, on a des différences? Il est possible. C'est vrai que c'est assez dramatique en pleine campagne. Personnellement, je pense que... il faut attendre la réponse maintenant de l'Agence du médicament, qui va avoir un certain nombre d'informations dans les dossiers, puisqu'elle est à même de les réclamer.
Mais alors, elle déclare cet après-midi que les avantages sont supérieurs aux risques.
Ah ben, on est tous d'accord. Ça fait pas, il n'y a pas assez de nombre. Le nombre de thromboses est beaucoup trop faible pour dire que les risques sont supérieurs aux avantages. Ça, c'est une évidence.
Professeur Bertrand Guidé, d'abord, quid des gens qui ont reçu une première injection et qui doivent faire un rappel? Est-ce que certains pourraient être, d'abord, techniquement, leur rappel, il est suspendu également. Est-ce qu'ils pourraient être tentés de ne pas faire le rappel en disant, dans le doute, on ne va pas insister? Et est-ce que, clairement, maintenant, le mal est fait, il y a une hiérarchie dans les vaccins et clairement, les Français vont préférer être vaccinés au Pfizer en disant, avec le Pfizer, pas de problème?
Oui. Alors, il y a plusieurs remarques. Première remarque, c'est assez rigolo parce que les vaccins ARN messagers à l'automne, personne n'en voulait en disant « ça va modifier mon génome, ça va m'injecter des puces électroniques sous la peau ». Enfin, voilà, on avait ce type de délire et maintenant tout le monde veut de vaccins ARN messagers, comme quoi il faut avoir un peu de patience et de calme. Singulièrement pour ces vaccins adénovirus, c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe avec d'autres vaccins. Je rappelle que le vaccin Janssen, qui arrive en France, c'est un vaccin adénovirus, et que quand on compare les complications thromboemboliques chez les personnes qui ont été vaccinées versus les personnes qui n'ont pas été vaccinées, la grande étude de phase 3, il y avait 14 maladies thromboemboliques dans le groupe vacciné et 10 dans le groupe non vacciné, c'est statistiquement absolument pas significatif. Donc ça montre quand même qu'il faut avoir beaucoup de prudence. Donc moi je suis d'accord pour dire qu'il faut appliquer le principe de précaution parce que à partir du moment où il y a un doute, il faut l'investiguer, mais il faut pas être non plus délirant. C'est-à-dire que, et j'adhère complètement à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, le rapport bénéfice-risque, il est très largement en faveur du bénéfice de ces vaccins. Donc oui, il faut investiguer, oui, il faut un moratoire, mais il ne faut pas être délirant sur le risque. Parce que les autres vaccins ARN messagers, on ne les aura pas à due concurrence de ce dont on a besoin, c'est-à-dire quand même des millions de doses, et donc on ne va pas rester dans cette situation pendant encore des mois et des mois. Donc il va falloir que la campagne de vaccination reprenne, il va falloir faire feu de tout bois. Je pense que c'était raisonnable de faire un moratoire, je pense qu'il faut continuer à se faire livrer ces vaccins AstraZeneca, et dès qu'on aura le feu vert des auteurs européennes, reprendre une campagne de vaccination, mais dans un climat serein, apaisé, s'il s'avère que c'est effectivement un produit qui est au final bien toléré.
Professeur Bertrand Guidet, vous rappeliez tout à l'heure la méfiance qu'il y avait vis-à-vis du vaccin Pfizer, qui est une technologie révolutionnaire, qui n'avait jamais été utilisée pour fabriquer un vaccin, technologie de l'ARN messager. Cette technologie, en revanche, de l'AstraZeneca, qui est de l'adénovirus.
Adénovirus,
voilà. C'est une technologie éprouvée ou c'est une technologie aussi qui est nouvelle, mais moins révolutionnaire ? Ah, alors, professeur Rougiou, je ne sais pas, on a un blocage avec professeur Guidet. Alors, qui veut répondre ? Professeur Rougiou, c'est une technologie qui est complètement nouvelle ?
Non, c'est relativement nouveau dans la mesure où là, il s'agit d'un adénovirus de chimpanzé. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses infections à adénovirus chez l'homme. Et donc, effectivement, il ne faut pas prendre un adénovirus contre lequel on pourrait faire des anticorps ou contre lequel on a déjà des anticorps. Donc, ils sont déviés un petit peu en prenant l'adénovirus de chimpanzé. Il est multiplié sur culture cellulaire de façon à avoir la spicule du virus, du coronavirus, à sa surface. Mais il ne se multiplie pas dans l'organisme. C'est juste une injection. Et là, les cellules dendritiques vont découper en morceaux les petits peptides et présenter ces peptides aux cellules CD4, CD8. Donc, en fait, ce n'est pas un virus qui va se multiplier. C'est une injection de protéines transportée par un adénovirus.
D'accord. Docteur Agnès Ricard, bon, donc vous participez les week-ends, quand vous n'êtes pas au SAMU, vous vaccinez la France dans votre centre de vaccination éphémère, ce qu'on appelle les vaccinodromes. Est-ce que vous pensez que le week-end prochain, il y aura nettement moins de monde ? Est-ce que du coup, cette mauvaise nouvelle de l'AstraZeneca va mettre en péril la campagne de vaccination en France, qui était déjà poussive, on n'est qu'à 7% des Français vaccinés contre 31% en Grande-Bretagne et plus de 60% en Israël ?
Alors, le centre de vaccination dans ma ville où je suis élue déléguée à la santé est un centre de vaccination Pfizer pour les patients qui sont plus de 75 ans et les plus à risque. Donc, ça ne va pas forcément impacter le centre de Sannois. En revanche, ça perturbe profondément toutes les campagnes de vaccination qui étaient prévues, notamment chez les médecins traitants et les pharmaciens et dans les centres de vaccination qui faisaient l'AstraZeneca. Et ça oblige à des déprogrammations de patients qui attendent ce vaccin avec beaucoup d'impatience et d'intérêt. Donc, cette suspension, il ne faudrait pas qu'elle dure trop longtemps, parce que je rappelle quand même que la maladie tue beaucoup plus que le risque du vaccin, s'il est avéré, et qu'on a vraiment le seul moyen de protéger la population, c'est quand même la vaccination avec des vaccins disponibles, et que les autres vaccins, on ne va pas en avoir suffisamment dans un délai court pour pouvoir protéger la population. Donc on raisonne toujours en médecine en avantages, inconvénients, bénéfices, risques. Quand vous prenez des médicaments en prévention de la maladie thromboembolique ou une maladie cardiaque, vous prenez des médicaments qui entraînent aussi des effets secondaires, hémorragiques ou autres, qui existent, mais quand le rapport bénéfice-risque est très en faveur du bénéfice, on accepte un risque minime, voire quasi inexistant. Là, en l'occurrence, sur les informations dont on dispose, le risque, il est soit pas du tout corrélé, enfin inexistant, soit minime par rapport au bénéfice majeur qui a été observé notamment chez les patients Angleterre et Écosse. Il est très efficace pour limiter la mortalité il y a ce virus. Donc, il faut raison garder, mettre en place les procédures et analyser, et ça, c'est très important, et ensuite reprendre dans un climat serein.
Il n'empêche, Bruno Jeudy, cette annonce, quand même, est-ce qu'elle ne vient pas miner la crédibilité de la parole politique hein. Il y a Jean Castex hier soir dire « mais non, il n'y a aucun problème ». La crédibilité de la parole scientifique, avec une agence du médicament européenne qui a validé ce vaccin. Et j'allais dire aussi la campagne de vaccination qui devait commencer tambour battant aujourd'hui dans les pharmacies.
C'est incontestablement un coup dur pour la campagne de vaccination, pour la France qui, effectivement, vous le disiez, entamait aujourd'hui, j'allais dire, passait la vitesse supérieure avec une plus grande diffusion de la possibilité de se faire vacciner et chez son médecin traitant et surtout chez son pharmacien, se faire vacciner au coin de la rue. Ça commençait cette semaine avec une montée en puissance, notamment dans les livraisons d'AstraZeneca, plus de 150 000 cette semaine, autant la semaine du 22 mars. Et là, patatras, ça s'arrête. On ne sait pas jusqu'à quand. Ça tombe d'autant plus mal qu'hier, Jean Castex, on voyait depuis plusieurs jours, Olivier Véran, Jean Castex, M. Salomon étaient tous montés dans les médias pour justement participer de cette opération pour rassurer les Français. Parce qu'il planait un doute déjà sur ce vaccin. Emmanuel Macron, au mois de janvier, avait lui-même eu une parole assez pas forcément rassurante sur le fait qu'on ne pouvait pas vacciner les 60-74 ans qui avaient encore des doutes. Bon, ceci a été levé depuis, une étude avait montré que c'était absolument pas un problème. Mais enfin, il y avait quelque chose autour de ce vaccin qui tournait pas rond et qui faisait qu'il y avait une inversion de tendance. Le professeur l'a dit tout à l'heure, là où on voulait pas du Pfizer au début de l'année, et bien maintenant on veut du Pfizer, on veut pas du AstraZeneca, comme si au fond les Français voulaient choisir leur marque de vaccin comme dans une grande surface. Or, aujourd'hui, le gros problème de la France, c'est qu'on est court en approvisionnement et les prochains vaccins n'arriveront que le mois prochain, ceux qui ont été cités à l'instant.
Alors cette suspension de cette campagne de vaccination tombe au plus mal, car on le sait, l'Île-de-France est dépassée par l'épidémie de coronavirus. On compte désormais plus de 1100 patients en réanimation aujourd'hui en Île-de-France. Et puis on l'apprend cet après-midi, le taux d'incidence vient de passer la barre des 400 pour 100 000 habitants, ce qui était un chiffre fatidique au-delà duquel Jean Castex disait qu'il serait raisonnable de reconfiner la région Île-de-France et ses 12 millions d'habitants. Vous voyez ce sujet de William Rouzet et Nicolas Baudry-Dasson.
Direction Bordeaux pour ces deux patients Covid au départ d'Orly. Une évacuation pour soulager les services de réanimation en Île-de-France, qui devrait s'accélérer pour atteindre les 100 patients transférés en fin de semaine. Une opération en forme de dernière chance pour le gouvernement, qui cherche à éviter à tout prix un reconfinement en région parisienne.
Nous faisons tout pour ne pas avoir à prendre des mesures plus difficiles, contraignantes pour les Français. Les mesures qui sont mises en place depuis plusieurs mois, elles pèsent beaucoup, je le sais, sur le quotidien des Français. C'est toujours cet équilibre que nous cherchons à maintenir.
L'exécutif marche sur un fil, alors que le nombre de patients en réanimation ne cesse d'augmenter depuis janvier dans les hôpitaux parisiens. Aujourd'hui, 1134 lits sont occupés, soit près de 99% de la capacité d'accueil. Déplacer les patients pour donner de l'air aux hôpitaux franciliens. Mais jusqu'à quand ? À Bordeaux, les médecins préviennent, les services de réanimation seront eux aussi bientôt saturés.
Aujourd'hui, capacités du CHU de Bordeaux en termes de réanimation sont quand même relativement limitées puisque 90% des places sont occupées et on a à peu près 20% de patients Covid sur ces secteurs de réanimation et de soins intensifs.
Confinement le week-end, confinement toute la semaine et même fermeture des écoles. Plus aucun scénario ne semble à présent écarté. Même si Jean Castex, en direct hier sur la plateforme de streaming Twitch, continue de marteler la stratégie du gouvernement.
Je crois qu'il faut ne recourir au confinement, qui n'est pas exclu, je le dis toujours, tout de suite en réponse très clairement à cette question, qu'il n'est pas exclu, mais il faut qu'on utilise toutes les armes à notre disposition pour éviter le reconfinement, compte tenu des conséquences qu'il a pour la population.
De quoi faire bondir certains médecins qui demandent depuis plusieurs semaines des mesures plus strictes. Pour Bruno Rioux, directeur médical de crise de la PHP, il est trop tard pour jouer la montre, notamment à cause de l'explosion des cas du variant anglais.
J'entends beaucoup dire que une semaine sans confinement est une semaine gagnée. J'ai pas la même analyse. Pour moi, c'est une semaine perdue, notamment lorsqu'on considère le nombre de décès, le nombre de patients en réanimation, dont il faut rappeler que 1 sur 4 décédera, et certains vont garder des séquelles.
Le scénario d'un reconfinement en Île-de-France ne semblait pourtant plus être sur la table ces dernières semaines. Il est aujourd'hui au cœur des débats entre les responsables politiques franciliens. Quand la maire de Paris s'y oppose,
C'est très difficile et très lourd pour les Parisiens qui vivent pour l'essentiel dans des appartements petits, sans balcon ou jardin extérieur, pour pouvoir décompresser.
La présidente de la région Île-de-France, elle, semble résignée.
Île-de-France est clairement en sursis. Aujourd'hui, vous le savez, le variant anglais est majoritaire. Et ce variant, il n'est pas seulement plus contagieux, il est aussi plus mortel. Nos capacités de réanimation sont saturées et nous sommes l'objet d'une troisième vague. D'une troisième vague très violente qui va prendre des vies.
Fermons les voies sur berge. Les règles de distanciation physique ne sont pas respectées.
Un an jour pour jour après le début du premier confinement, le gouvernement devrait préciser sa stratégie lors du Conseil de défense sanitaire prévu ce mercredi.
Alors, question téléspectateur, professeur Rouziou. Compte tenu du délai entre contamination et réanimation, les trois semaines qui viennent risquent-elles d'être terribles ? Voilà, question. Alors, j'ajoute qu'on vient d'apprendre qu'en Île-de-France, on a passé la barre des 400 contaminations pour 100 000 habitants. On est à 404 exactement. Pourquoi je dis ça ? Parce que hier, Jean Castex sur Twitch a dit « Nous pourrions confiner l'Île-de-France quand le taux d'incidence sera à 400 pour 100 000 ». Eh bien voilà, on est à 404 pour 100 000.
Oui, la situation est virologiquement assez dramatique. Il faut quand même dire les choses. On est sur un plateau qui est trop haut, avec beaucoup de contaminations chaque semaine, plus de 150 000 positifs encore détectés la semaine dernière. Ça veut dire au moins 300 000 personnes positives. Et en Île-de-France, n'en parlons pas. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'imaginer qu'il y aura des hospitalisations supplémentaires d'ici 15 jours à 3 semaines. C'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'être très malin pour le comprendre. Et ça fait quand même pas mal de semaines que ça dure. Donc je suis d'accord avec M. Rioux, une semaine n'est pas gagnée, elle est perdue et on en a perdu plusieurs. Et je pense que là, vraiment maintenant, il est nécessaire de prendre des mesures particulières. Alors, la situation est très hétérogène sur toute la France. Il est vrai que l'Île-de-France est très touchée, de même le Nord et de même la région PACA, et en plus touchée avec un virus qui se transmet très bien, le virus anglais. Je suis aussi assez inquiète en tant que virologue avec le virus sud-africain qui commence aussi à se répandre, enfin qui est présent sur une grande partie de la France.
Mais il était en Moselle à l'origine.
Il était en Moselle à l'origine, mais c'est vrai qu'à l'origine, on a dit il y a un soldat qui vient de Mayotte et qui est arrivé en Moselle. Pour moi, ça ne tient pas à la route. C'est la pression de sélection qui se passe sur le fait que les gens sont un peu immunisés. Et c'est le virus dominant qui est le plus fort, c'est Darwin, qui va émerger. Et donc, c'est pour ça qu'il émerge un peu partout et que le virus anglais, certes, il a été apporté en partie d'Angleterre parce que, effectivement, il y a eu des importations, mais ça n'est pas la seule raison. Et donc, il faut se faire vraiment attention à l'émergence de ces variants qui vont vite. Et en plus, ce variant anglais, maintenant, on sait depuis la semaine dernière qu'il est létal et qu'il tue plus que le variant précédent.
64% plus létal selon les
Exactement.
Études du British
Donc,
Medical
tous ces
Journal.
Signaux, tous ces signaux rouges sont, à mon avis, extrêmement forts pour prendre des décisions beaucoup plus fortes que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Professeur Bertrand Guidet, pour éviter quand même un reconfinement dont Anne Hidalgo disait qu'il était inhumain et dont on a pu mesurer les conséquences sociales, on demande à l'hôpital de tenir. Ça veut dire quoi tenir et à partir de quels sont les signaux qui vous ferait dire, aujourd'hui, ça y est, on ne tient plus, on ne peut plus tenir.
Alors, plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, il faut considérer la totalité des malades, Covid et non-Covid. Il n'est pas question d'organiser l'hôpital exclusivement pour les malades Covid au détriment des malades non-Covid. Ça, c'est un point qui est très important, y compris en réanimation. Moi, j'ai sanctuarisé un secteur de mon service pour des malades non-Covid. Et donc, il faut préserver une offre de soins pour la totalité des malades. Donc là, on a une déprogrammation chirurgicale à hauteur de 40%, de manière à pouvoir dégager du personnel et ouvrir des lits supplémentaires de soins critiques. Mais on voit bien que cet exercice a des limites. Et donc, d'une part, déprogrammation, on ne pourra pas faire autant que ce que l'on a fait au printemps dernier. Deuxièmement, on n'aura pas de moyens supplémentaires avec d'autres régions qui vont venir nous aider, parce que les autres régions sont aussi quand même beaucoup touchées. Troisièmement, le personnel est vraiment fatigué. Et donc, il est impossible de leur demander de faire plus. Et donc, quand on regarde les chiffres, là, vos chiffres, c'est 100% des lits de réanimation occupés. Ça veut dire que pour que l'on puisse accueillir d'autres malades, on a dû ouvrir des lits supplémentaires. Et donc, pour ouvrir des lits supplémentaires, on l'a fait avec des moyens compliqués, c'est-à-dire pas dans des locaux habituels, avec des personnels qui ne sont pas nécessairement habitués à faire de la réanimation. Et donc, c'est compliqué. Et donc, très, très clairement, depuis quelques jours, on a des signaux concordants pour dire, là, on arrive dans une période où l'hôpital ne va pas être capable de faire face à la demande. Là, il y a deux possibilités. Soit une première possibilité de dire, mais écoutez, on accepte qu'il y ait des morts supplémentaires et que là, d'autres priorités de la société civile doivent intervenir.
Des morts faute de place en réanimation, c'est-à-dire des gens qu'on pourrait sauver en réanimation, mais on n'a pas, donc ils meurent.
On ne va pas mettre des lits superposés en réanimation. Je veux dire, à un moment donné, on est au maximum de ce que l'on peut faire. Moi, j'ai ouvert une unité supplémentaire de 8 lits, avec des médecins qui doivent travailler dans deux lieux différents, des infirmières, on doit intégrer des infirmières qui viennent d'ailleurs, mais qui n'ont pas l'habitude de travailler dans l'équipe. C'est compliqué de prendre en charge un malade instable de réanimation. Donc, penser qu'on peut comme ça étendre, ouvrir des lits supplémentaires en claquant dans les doigts, mais non, c'est pas possible. Et donc, on est à la limite de ce que l'on peut faire, et je pense effectivement qu'on ne fera pas l'économie d'un reconfinement. Et si ce reconfinement doit intervenir, il doit intervenir rapidement.
Bruno, je dis, est-ce que...
En revanche, j'en ai terminé, je pense que c'était quand même pas mal de ne pas avoir reconfiné mi-janvier. Les gens ont pu prendre des vacances en février. Moi, je discute avec les infirmières, elles disent que c'était quand même sympa de pouvoir prendre une semaine de vacances en février, ce qu'elles n'auraient pas pu faire. Et je rappelle que l'Italie reconfine là, et donc que ce n'est pas si simple. Et que si on avait effectivement confiné le 15 janvier ou fin janvier, on aurait quand même probablement dû poursuivre ce confinement maintenant. Donc, en résumé, il faut reconfiner maintenant, tous les signaux sont au rouge.
Bruno Jeudy, est-ce que cette option d'un reconfinement strict, hein, 7 jours sur 7, on ferme les commerces, même on ferme les écoles, est sur la table et sous question? Est-ce qu'il sera respecté? Est-ce que c'est l'une des inquiétudes du gouvernement? C'est que contrairement au premier confinement, les gens, les Français, les Franciliens sortent et n'en peuvent plus et n'obéissent plus aux ordres du gouvernement.
Alors, premier point, d'abord, la bataille pour éviter le reconfinement coûte que coûte, hein, qui était menée par le gouvernement depuis le 29 janvier. Cette décision, ce jour-là, de ne pas reconfiner le pays et de faire un couvre-feu étendu et plus strict, est probablement perdue, puisque vous avez vous-même indiqué le chiffre de 400 taux d'incidence, 404, qui était un peu le seuil fixé par le Premier ministre dans son intervention d'hier soir. Est-ce que le reconfinement est sur la table? Oui. Quel reconfinement? Le président de la République recevra demain une partie des membres du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy et quelques autres, et on imagine justement que c'est pour examiner les différentes situations. Et lorsqu'ils ont été reçus la veille de Conseil de défense sanitaire, en général, c'était pour des décisions graves. Donc on se dirige vers des décisions graves. Quel reconfinement? Il y a plusieurs possibilités. Sur l'Île-de-France, vous avez la possibilité d'un reconfinement de toute la région. C'est jusqu'à présent l'argument qui avait été avancé, reconfiner la Seine-Saint-Denis, qui était déjà ce week-end à 486 de taux d'incidence. C'est le cas aussi pour le Val-de-Marne, l'est de l'Île-de-France. Et c'est aurait pu être reconfiné finalement. Ils étaient au niveau du
Pas-de-Calais. Il y a déjà quatre départements, voilà, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise et le Val-de-Marne, qui étaient au-delà de ce chiffre de 400. Mais 100 000 habitants.
Mais Axel, vous êtes en Île-de-France. Île-de-France est une région très imbriquée, 12 millions d'habitants, quasiment le quart de la richesse nationale, avec des transports qui vont d'est en ouest, du nord au sud, très, très compliqués. Donc, la décision, c'était on ne peut reconfiner que toute l'Île-de-France. Il se trouve que, notamment, le préfet d'Île-de-France réfléchit à une autre solution qui pourrait être d'exclure notamment les franges de l'Île-de-France. Cette région est très grande, il y a une partie qui est ultra-urbaine, une partie qui est beaucoup moins urbaine, voire rurale, notamment l'ouest des Yvelines, le sud de l'Essonne, voire l'est de la Seine-et-Marne. Vous pouvez imaginer aussi un petit peu ce qui s'est fait dans les Alpes-Maritimes. Vous avez seulement la bande côtière qui est confinée aujourd'hui le week-end. Donc ça, c'est une solution qui est à l'étude, notamment au niveau de la préfecture d'Île-de-France. Donc il y a quand même beaucoup de travaux qui sont menés. Troisième point, les membres du Conseil scientifique disent eux-mêmes que le couvre-feu, le confinement le week-end ne serait pas suffisant compte tenu du niveau aujourd'hui du taux d'incidence en Île-de-France. Et ce qui est sur la table aussi, c'est peut-être de reconfiner en semaine l'Île-de-France.
Avec un risque, de manière stricte, avec un risque que tous les Franciliens fuient l'île de France.
Alors, attention, quand vous dites strict, ce ne serait certainement pas le modèle du printemps. Strict, ça voudrait dire que les écoles sont fermées, que tout est fermé, ce qui, là, ne serait pas forcément le cas. Enfin, tout ça n'est pas tranché, tout ça sera tranché.
Commerce essentiel, non essentiel.
Absolument, tout ça sera tranché mercredi, mais vous voyez bien que vous n'êtes pas forcément... on a déjà eu deux types de confinement, hein, le confinement du printemps 2020, le confinement de l'automne 2020. Là, on sera forcément dans un troisième scénario d'abord régional, et donc évidemment avec beaucoup d'hypothèses de travail qui sont sur la table.
Et Agnès Ricaribon, alors fort heureusement, toute la France n'est pas touchée de la même façon, notamment les hôpitaux à l'ouest sont beaucoup moins sollicités, et ce week-end on va organiser des départs de TGV, donc on parle de 24 voire une cinquantaine de patients, hein, qu'on va évacuer ainsi. Vous avez participé à ces opérations, racontez-nous, et c'est une façon quand même de soulager de façon significative les hôpitaux que d'évacuer des patients en réanimation par des TGV.
Alors c'est absolument indispensable pour les raisons qu'a expliqué Bertrand Guidet tout à l'heure. À l'heure actuelle, on a dépassé les 100% de taux d'occupation en réanimation. Et pour les soignants, mais également pour la société, il est aujourd'hui inconcevable d'avoir un patient qui se présente à l'hôpital avec des chances de survie et de ne pas lui proposer les soins dont il mérite. Donc cette solution qui est de transférer les patients permet d'avoir un souffle, permet de libérer des lits de réanimation pour des nouveaux patients, et ça se fait dans des conditions de qualité et de sécurité parfaitement respectées. Sur les 660 patients qu'on a fait en première vague, on a fait une analyse de la qualité, sécurité et de la morbi-mortalité, ce qu'on appelle la morbidité, la mortalité de ces patients, et ben elle était clairement pas plus importante, et il n'y a eu aucun effet délétère de ces transferts, parce que ces transferts sont faits par des équipes du SAMU qui sont ultra entraînées, qui ont l'habitude de faire ces transferts. Lors de la première vague, j'avais été interrogée par des journalistes américains qui m'avaient dit « Mais comment vous faites pour transférer 48 patients intubés, ventilés, avec autant de pousseringues en même temps ?» Ben, j'ai simplement répondu qu'on faisait pour 48 ce qu'on était capable de faire tous les jours pour un patient hors crise, puisque en fait c'est la plus-value un peu du système français, cette médicalisation préhospitalière par des équipes de médecine d'urgence qui sortent de l'hôpital et qui sont capables de faire de la réanimation à domicile avant l'arrivée à l'hôpital. Cette plus-value, c'est bien de parler de temps en temps de ce qui marche bien en France, ça permet justement de faire ces transferts par des équipes qui sont très entraînées et qui peuvent transférer ces patients. Alors le TGV est très bien pour nous, c'est vraiment confortable parce que ça entraîne une stabilité. Il y a le moment de l'installation qui est un petit peu sensible, mais après, la SNCF a travaillé avec les médecins pour avoir une vitesse constante, sans accélération et décélération brutale, qui ont parfois des impacts sur le respiratoire et la fonction qu'on dit hémodynamique, donc circulatoire. Et ces TGV, en fait, permettent une stabilité. On a de la place dans ces TGV pour travailler, pour apporter les soins, avec tout le matériel finalement de réanimation dont on a besoin. Et il y a des logisticiens qui sont dans la REM du dessus qui peuvent donner les médicaments, le matériel dont on a besoin. Et donc tout ça est très bien cadré. Les patients sont sélectionnés par les réanimateurs et sont des patients qui ne sont pas en phase d'aggravation mais qui ont besoin de réanimation et de respiration artificielle encore plusieurs jours. Donc, qui ont besoin de réanimation et qui vont donc dans des réanimations avec du personnel qui est moins fatigué, qui est moins sous tension, qui n'a pas besoin de libérer des lits rapidement comme c'est le cas en Île-de-France, et donc dans des réanimations un peu plus sereines, et ce qui fait que ça a un intérêt collectif mais aussi un intérêt individuel pour les patients qui en bénéficient.
Et ça vous a valu donc les honneurs de la presse américaine. Professeur Christine Rouzioux, ces patients en Île-de-France, on va les transférer dans les hôpitaux de l'Ouest. Comment est-ce qu'il y a une raison? Comment se fait-il, par exemple, que les Pyrénées-Atlantiques, la Pau, dans le sud-ouest. Il y a, on est passé sous le seuil d'alerte, au contraire. On parlait du taux d'incidence. On est passé sous les 50 pour 100 000 habitants en taux d'incidence. Est-ce qu'il y a une explication? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de touristes. C'est la région de Saint-Jean-de-Luz, c'est très touristique.
Non, il n'y a pas d'explication. Enfin, j'ai pas d'explication comme ça. Le fait est que la circulation du virus ne se fait pas du tout de la même façon partout, mais il y a aussi une densité de population, les déplacements, les gens sont peut-être un peu plus raisonnables, les restos clandestins sont sans doute beaucoup plus nombreux à Paris qu'à Pau ou à Bayonne. Voilà, je pense que c'est pas la même vie dans certaines régions de province, elle est peut-être plus calme et les gens plus conscients et plus mesurés, il y a pas les mêmes jeunes, c'est pas une ville de faculté, c'est pas une région d'universitaires, enfin voilà, il y a plusieurs possibilité qui expliquerait. Mais cette disparité n'est pas que dans les Pyrénées-Atlantiques.
Il y a le Finistère aussi, qui en a très peu.
Alors voilà, il y a la Bretagne, mais quand on regarde le taux d'hospitalisation, on voit que la carte qui était orange très claire il y a 15 jours est devenue progressivement orange un peu plus foncé sur finalement la moitié de la France. Donc les choses, le virus anglais continue à proliférer et le virus sud-africain lui aussi commence. On est parti de 0% de ce virus sud-africain fin janvier. On est déjà à 10% avec plus des deux tiers des départements qui ont déjà des cas avec le virus sud-africain.
Et les inquiétudes sur l'efficacité du vaccin contre ce virus sud-africain?
Alors, pour le moment, sur le virus sud-africain, on n'a pas autant de données que sur le virus anglais pour lequel on voit la différence de pathogénicité. Alors, pour le virus sud-africain, si les Africains ont bien... Les Sud-Africains ont bien publié un excès de mortalité avec ce virus, avec une augmentation, que ce soit dans East Cape Town, au Swaziland-Natal, etc. Quatre régions sont publiées et montrent bien cet excès de mortalité avec ce virus, mais c'est vrai qu'ils montrent aussi, avec beaucoup de séquençage, ils font beaucoup de travaux moléculaires, ils montrent aussi pour les études de réponse immunitaire, que AstraZeneca, encore lui, 22% de mauvaises réponses contre ce virus sud-africain.
Alors, si la France hésite encore, l'Italie, qui vient de franchir la barre des 100 000 morts, l'Italie, elle n'a pas eu le choix. Depuis ce matin, la majorité du pays est reconfinée, c'est-à-dire que les écoles, les bars, les restaurants et les commerces non essentiels sont fermés pour au moins 3 semaines. Une situation difficile à vivre pour les Italiens, gagnée par la lassitude, comme vous allez le voir dans ce reportage tourné à Naples de Juliette Perrault, Ariane Morisson avec Laszlo Gelabert.
Au pied du Vésuve endormi, c'est une éruption de colère qui déferle dans les rues de Naples. Chaque samedi, un cortège de familles proteste contre la fermeture des établissements scolaires. À cause du Covid, en un an, les élèves n'ont passé qu'une trentaine de jours en classe. Début mars, la région de Campanie est de nouveau placée en zone rouge. Et évanoui, l'espoir d'une réouverture des écoles, les parents sont sidérés.
Quand la société ne fonctionne pas, c'est parce que l'éducation ne fonctionne pas. Et c'est ce qui est en train d'arriver en Italie. C'est une honte. Nos enfants grandissent en ayant peur de sortir et de passer du temps avec leurs amis.
Parmi ses parents révoltés, Giovanna Iodice et Stefano Micoletti, pour qui la vie a radicalement changé. Ces deux avocats vivent dans le centre-ville de Naples. Depuis que l'école est fermée, ils ont dû réduire de moitié leur temps de travail pour garder leur fille à la maison.
Quand on est avocat, on prend des dossiers qu'on peut garder aussi bien une journée, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc le manque à gagner, on le verra, mais avec le temps.
Un quotidien bouleversé, d'autant plus que le couple doit désormais faire l'école à la maison.
Ils disent d'écrire le nombre fractionné. Tu dois écrire le nombre. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un cercle.
Non.
Non. Tu as colorié un triangle. Donc c'est quoi comme fraction?
La maîtresse explique mieux. C'est mieux à l'école qu'à la maison avec maman.
Le plus difficile, c'est le stress que tout cela engendre. La peur de mal faire pour tout le monde. C'est brutal. Pourquoi moi j'ai le rôle de la maman méchante? J'ai des filles gentilles, travailleuses, mais là je me retrouve avec mes filles qui sont parfois en larmes.
Naples, comme les trois quarts de l'Italie, se reconfine. En plus de sorties limitées, les restaurants qui avaient pourtant rouvert ont baissé le rideau. Comme un goût d'éternel recommencement pour ce chef, qui s'est remis à la vente à emporter. Au menu, des spécialités napolitaines qu'il ne cuisine plus avec le même plaisir.
Regardez, c'est vraiment moche. Quoi qu'on fasse pour embellir le plat, on ne peut pas être créatif. Ça me déprime, vraiment.
Ce qui contrarie le plus Potito Izzo, c'est la succession d'ouvertures et de fermetures qui durent depuis un an. Difficile pour lui de se projeter.
Je suis déprimé. Je n'ai pas vraiment le moral. On ne sait jamais ce qui nous attend demain. On ne sait jamais s'il faut faire des stocks ou pas. On a des frais, nos fournisseurs doivent être payés, mais nous, on ne sait pas si on rouvrira ou pas le lendemain.
Face à cette gestion de la pandémie, la lassitude a aussi gagné certains élus locaux. Nicola Ottaviani est le maire de Frosinone. Située entre Naples et Rome, cette ville de 46 000 habitants est confinée depuis le 8 mars.
C'est sûr que de voir les magasins fermés, le peu de monde dans les rues, c'est triste.
Il estime que ce retour en arrière aurait pu être évité. En cause, selon lui, des patients transférés de petite province en petite province, où le système hospitalier a très vite été saturé.
Pourquoi est-ce que ces transferts n'ont pas été faits vers Rome? Pourquoi les malades n'ont pas été envoyés dans les grands hôpitaux romains, qui disposent de plus de lits et de moyens que les provinces?
Le retour à la Dolce Vita n'est pas prévu pour tout de suite. Ce confinement devrait durer au moins jusqu'au week-end de Pâques.
Bertrand Guidé, est-ce qu'on peut dire que l'une des difficultés supplémentaires concernant l'Italie, c'est que l'offre hospitalière d'une région à l'autre n'est pas la même, hein, selon qu'on habite à Naples ou à Turin
On va dire que l'Italie, au sud de Rome, ça devient très compliqué, en particulier pour les soins critiques. Et donc, effectivement, la qualité et la quantité d'offres de soins critiques au sud de Rome, c'est très compliqué.
Alors qu'en France... Qu'on soit soigné, je ne sais pas moi, de Lille à Marseille
en fait,
ou de...
Vous êtes soigné à Lille, à Toulouse, à Paris ou à Strasbourg, c'est pareil. Les gens, il y a des standards de prise en charge, il y a des recommandations de prise en charge, il y a des formations, il y a des sociétés savantes, voilà. Donc, en Italie, ce n'est pas du tout pareil. On a une vision très biaisée de l'Italie. L'Italie, effectivement, la Lombardie, ça n'a rien à voir avec la Campanile ou les Pouilles. Et donc, la qualité des soins et l'offre de soins au sud de l'Italie, ça n'a rien à voir avec la Lombardie.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Agnès Ricaribon, finalement, c'est cette homogénéité des hôpitaux français qui permet ces transferts de patients. Vous savez que les standards, les façons de travailler sont les mêmes quand vous envoyez... des malades de l'hôpital Saint-Antoine.
Absolument. Il y a des malades donc, qui sont partis à Bordeaux, il y a des malades qui sont partis à Nantes. C'est des services de réanimation qui ont des standards de très haute qualité et qui sont absolument homogènes sur le territoire national. Dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. On prend l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, vous avez des hôpitaux extraordinaires, mais vous avez aussi des hôpitaux catastrophiques. Et donc, il y a un vrai problème d'équité de prise en charge selon le type d'établissement dans lequel vous êtes hospitalisé. Ce n'est pas le cas en France.
Bruno, je dis pour revenir sur ce reportage à Naples, c'est quand même un coup dur au moral parce qu'on a l'impression que les Italiens nous montraient la voie. Ils avaient rouvert les restaurants. On s'est dit, ah bah tiens, ensuite ce sera les nôtres.
Oui, il y a un mois, français, on était plutôt envieux de la situation des Italiens. On voyait des reportages à Rome avec les terrasses qui étaient ouvertes, le musée du Vatican qui rouvrait. Et c'est vrai qu'il y avait aussi, du coup, une pression un peu ici sur la rouverture des musées. Hein. C'était il y a un mois. Mais on voit bien qu'il y a une différence entre deux pays. C'est le stop and go en Italie. Hein. On confine, on déconfine, on reconfine. Avec une situation, une gestion sanitaire assez différente. Alors, il faut aussi indiquer que l'Italie a changé de chef de gouvernement, il y a eu aussi des changements politiques à la péninsule. Quand nous, au fond, on est quand même, on l'oublie un peu, mais on est en situation, en gros, de couvre-feu hein, depuis la mi-octobre. Hein, on est quasiment à 140 jours dans une situation assez stable, hormis les deux reconfinements le week-end sur les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais. On est dans une situation qui est, au fond, on s'est accommodé bon gré mal gré, et on voit que dans les sondages, c'est plus ou moins accepté de ce couvre-feu au long cours qui fait qu'on vit quasiment depuis 140 jours avec les écoles ouvertes. Et là, pour le coup, c'est une vraie doctrine du gouvernement, une spécificité française qui est contestée par ailleurs par un certain nombre de scientifiques qui estiment que le variant anglais se démultiplie aussi par les plus jeunes. Mais nous, ici, on a fait un choix politique, pour le coup, qui est d'ailleurs assez unanime dans la classe politique française, de ne pas fermer les écoles. Et ça, c'est une vraie leçon tirée du premier confinement, le fameux reconfinement strict, qui avait fait beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, le président de la République, quand il prend la parole, il l'a encore pris ce soir après son annonce sur AstraZeneca, il a parlé il était interrogé sur la question du reconfinement, il a parlé, il faut que ce soit adapté et proportionné. Il a beaucoup employé le mot protégé, en disant qu'il doit protéger les Français, non seulement face au Covid, mais face aux autres maladies, et aussi face à l'isolement, face aux difficultés psychologiques et le soutien de la jeunesse qui, quand même, paye très très cher cette situation maintenant qui dure depuis un an.
Professeur Rouzio, ça veut dire que les restaurants ne sont pas prêts de rouvrir en France ?
Non, ils ne sont pas prêts de rouvrir parce que les dernières études qui cherchaient à savoir où on se contaminait montrent à l'évidence que c'est finalement quand on se réunit pour manger et boire. On parle beaucoup et on n'a pas de masque. Et c'est donc les aérosols, le virus reste en suspension dans des pièces qui sont plus ou moins bien aérées. Et donc, ce sont les meilleures conditions pour se contaminer. Il y a moins de contamination à l'extérieur, sauf quand il y a des regroupements. Les signaux récents...
Un restaurant en terrasse, ça pourrait fonctionner.
Un restaurant en terrasse espacé, ça pourrait fonctionner, mais là encore, il y a toujours des débordements et des relâchements. Et donc, pour le moment, je trouve que c'est vrai que le printemps arrive, qu'on va pouvoir être plus dehors. On peut aller faire du vélo à la campagne, on craint rien. Mais les déplacements nombreux et les regroupements, tout le monde en a envie et c'est ça qui est le plus ennuyeux. Il y a quand même des signaux assez forts d'augmentation du taux de positivité dans la tranche d'âge 15-44 ans. Ce taux de positivité est de plus en plus élevé. Il faut voir les chiffres. Le variant anglais contamine y compris maintenant les plus jeunes. Donc, toutes ces notions-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'indicateurs qui doivent être pris en compte. Encore une fois, ce n'est pas la même chose dans les villes universitaires. Il faut y faire attention et on a quand même l'impression qu'il y a eu des relâchements qui font que les mesures barrières n'ont pas suffi pour diminuer ce plateau qui reste beaucoup trop élevé avec une circulation virale beaucoup trop forte pour ouvrir les bars.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Professeur Guidet, le vaccin AstraZeneca est celui auquel je peux prétendre, vu mon âge et mes comorbidités, mais il me fait peur. On va l'entendre, ça.
Non, il y a deux questions. Il y a la question d'efficacité et la question de tolérance. Sur la question d'efficacité, on a répondu, c'est un vaccin qui est globalement un bon vaccin. Sur la question de la tolérance, c'est le problème des effets secondaires. Donc, ce qui a été discuté il y a quelques semaines, c'était une espèce de syndrome grippal pendant 24 heures après le vaccin, ce que l'on peut observer avec d'autres vaccins contre d'autres virus. Donc ça, je pense que ce n'est pas un problème. Après, c'est d'autres effets secondaires de type malaise cardiaque ou du type formation de caillots. Donc on en a parlé. Hein. Le nombre est quand même extrêmement faible. La sévérité est quand même très, très faible. Hein. Ouais, alors après, il faut investiguer. On parle d'un cas d'une infirmière de 49 ans qui serait décédée en Norvège. Moi, je n'ai pas le détail de l'observation, mais il faut mettre ce risque en balance avec le bénéfice, avec des millions de personnes qui ont pu être vaccinées en Angleterre, avec un vrai bénéfice sur les hospitalisations. Moi, j'ai des collègues anglais qui témoignent que réellement, la pression baisse sur les réanimations anglaises. Donc, ça marche. Le vaccin marche. Alors après, il faut attendre les investigations de l'Agence européenne du médicament. Mais globalement, il y a quand même un signal extrêmement favorable en faveur de ce vaccin.
Professeur Christine Rousiou, combien de temps après l'injection du vaccin AstraZeneca risque-t-on une thrombose? Question de Marika dans les Hautes-Alpes.
Je suis comme les professeurs guidés, je n'ai pas vu la documentation des cas cliniques. Donc, a priori, je ne sais pas dans combien de temps ça s'est passé, mais je crois que ça s'est passé dans les heures qui ont suivi.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir un petit effet de psychose quant à ce vaccin qui est mal né, on l'a dit depuis le début? Parce que ce matin, les marins-pompiers de Marseille ont stoppé la vaccination parce que l'une des personnes vaccinées a fait un malaise cardiaque.
Non, je pense encore une fois que... on n'a pas l'ensemble des documentations de tous les cas et le délai peut être, n'est pas le même d'un effet secondaire d'une personne à une autre. Donc, par contre, c'est vrai qu'il a été rapporté des fièvres de 2-3 jours un petit peu fortes, nécessitant presque même des arrêts de travail dans les populations très jeunes. Donc effectivement, c'est normal. On veut stimuler le système immunitaire. Ça veut dire qu'il réagit beaucoup plus que ce que l'on voudrait, mais ça veut dire que l'immunité est en train de s'implanter. Donc cette réaction chez les jeunes est moins observée chez les personnes les plus âgées.
Bertrand Guidé, si le vaccin AstraZeneca est définitivement suspendu, parce que c'est une hypothèse, hein, que se passera-t-il pour les personnes qui ont déjà reçu la première dose? Question de Raphaël en Meurthe-et-Moselle.
Il y a une question sur est-ce qu'une seule dose pourrait suffire pour assurer une couverture vaccinale. Actuellement, ce n'est pas ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est que la deuxième dose soit administrée 12 semaines après la première dose. Mais une dose, déjà, assure une couverture importante. Alors après, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire une deuxième dose avec un autre vaccin? Les Anglais l'avaient discuté, ça. Changer de type de vaccin, ça me paraît quand même un peu bizarre. Aller utiliser un vaccin ARN pour la deuxième dose alors qu'on utilise un vaccin adénovirus pour la première dose, ça me paraît quand même pas très correct. Par contre, est-ce qu'on pourrait imaginer un deuxième vaccin à adénovirus de type Johnson & Johnson? Peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais déjà, avoir eu une dose, c'est pas mal. Hein. Les Anglais, ils ont eu une campagne de vaccination grand public avec une dose, de manière à couvrir le maximum de personnes, peut-être avec une efficacité un peu moindre que s'il y avait deux doses. Mais donc, si vous avez déjà une dose, ben c'est bien. Et si vous l'avez bien tolérée, tant mieux.
Professeur Rousiou.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Avec une dose, on a déjà un gros niveau de protection, surtout si en plus on maintient les mesures barrières. Par contre, changer de vaccin, ça c'est compliqué. Parce qu'on est immunisé à partir de la séquence, de la spicule, de la spicule du virus, pas de la même façon avec un vaccin avec un autre. Donc si on change, c'est plus vraiment un rappel. Hein. Donc il faut faire attention, on a sans doute besoin du même vaccin. Disons que la séquence virale, par exemple, dans le vaccin, l'ARN viral, dans l'ARN messager dans le vaccin Pfizer est peut-être pas tout à fait le même. Donc du coup, on ne va pas faire un vrai rappel d'immunité sur les épitopes qui sont concernés par le vaccin, la première dose.
Bruno Jeudy, certains de nos voisins européens ont fermé les écoles, mais pas la France. Peut-on affirmer que les enfants ne sont pas vecteurs du Covid? Question de Pierre dans le Lot. C'est vrai qu'on a vu Jean-Michel Blanquer affirmer ce week-end encore dans Aujourd'hui en France qu'il ne fermerait pas, enfin qu'il était très fier de ne pas fermer les écoles.
Non mais ça c'est une doctrine constante du gouvernement depuis la fin du premier confinement et lors du confinement de l'automne, les écoles n'avaient pas fermé. Alors il y a beaucoup de classes qui ferment, il y a un protocole dès qu'il y a des cas contacts, dès qu'il y a des enfants qui sont contaminés et il y a beaucoup de classes et même d'écoles qui sont fermées. Hein. Mais la doctrine est claire et sur ce point-là, ce serait vraiment qu'en dernière extrémité que les écoles seraient fermées. Par exemple, si on se projette dans un éventuel reconfinement la semaine en Ile-de-France. On n'en est pas là aujourd'hui, il faut le dire à nos téléspectateurs, mais de toute façon, pour l'instant, l'école, c'est non.
D'un mot, docteur Agnès Ricaribon, le transfert de malades est-il la preuve que le pari d'Emmanuel Macron est perdu?
Bonne question. Le transfert de malades, il est lié à la saturation des hôpitaux. Donc on peut dire que le pari est perdu. On peut aussi dire que peut-être que c'était justifié d'essayer de le tenter. C'est vrai que le monde sanitaire et l'ensemble, là pour le coup, la communauté médicale est assez d'accord là-dessus. On réclamait un confinement depuis plusieurs semaines. Maintenant, on est capable de voir les conséquences sur le plan sanitaire, mais pas forcément sur le plan économique, pédagogique, sociétal. Et donc, nous, soignants, on est là pour soigner, mais
Et voilà. Vous êtes là pour soigner.
La phrase analysée, c'est on ne courra jamais le risque de la saturation des hôpitaux. On y est peut-être.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission rediffusion ce soir. Demain, vous retrouverez Caroline Roux. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.